Donc, je vais rappeler rapidement le thème du cours. Donc, en fait, on a sauté une bonne partie de la lettre 29. On aura seulement deux cours sur la lettre 29. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième et dernier cours sur la lettre 29. Le thème, c'était la halakha. Je rappelle rapidement ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit, c'est écrit « Eshet Ra'il Ateret Bala » que la femme est comparée à la couronne. Une femme, les femmes sont comparées à la couronne de son mari. On a dit, c'est quoi la couronne ? C'est quoi la symbolique de la couronne ? La couronne, c'est la halakha. On va expliquer après comment la halakha s'est comparée à la femme et comment la... etc. Donc, on a expliqué la semaine dernière, on a amené, d'abord, on a posé une question, on a dit comment ça se fait que la halakha est appelée la couronne ? Particulièrement la halakha, la couronne de la Torah, c'est la halakha. C'est-à-dire que le top de la Torah, c'est la halakha. Comment ça se fait ? On a dit, à part ça, c'est écrit « Kol hashoné halakhot bechol yom uftachlo shehu ben olam haba ». Tout celui qui étudie des halakhot tous les jours, il a la garantie de, d'avoir le olam haba dans le monde futur. On a dit, ça, cette promesse, on la donne seulement pour celui qui étudie des halakhot. Pour le reste, non. Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est la première question qu'on a posée. On a dit aussi, à part ça, que la Gemara nous dit que même si une personne a étudié un petit peu de halakha le matin et un petit peu de halakha le soir, un chapitre de halakha le matin, un chapitre de halakha le soir, qu'est-ce qu'on te dit ? Il est quitte de la mitzvah. Encore une fois, la halakha. Pourquoi la halakha ? Qu'est-ce qu'on a avec la halakha ? Ça, c'est la question qu'on a posée la semaine dernière. Alors, pour expliquer ça, on a amené ce que l'Arizal a expliqué. L'Arizal nous avait dit quelque chose de très fort la semaine dernière. Il a dit qu'en vérité, chaque personne du peuple juif doit accomplir au moins une fois dans sa vie les 613 mitzvot. On avait passé longtemps sur ça la semaine dernière, ce qu'on s'est vous rappelez. Donc on avait expliqué que même si une personne a été pieuse et qu'elle a fait toutes les mitzvot, mais Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'une personne doit passer par les 613 mitzvot. Pourquoi ? Ce qu'on a expliqué, l'Admor Hazaken a expliqué sur le commentaire du Arizal. Il a dit très simple. Il a dit parce que les mitzvot, c'est comparé, bonsoir. Il a dit parce que les mitzvot, c'est comparé à un vêtement. À des vêtements. Chaque mitzvah, c'est comme un vêtement. Et en vérité, je vous donne directement la conclusion de ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est avec nous, Youssef ? Je vous donne directement la conclusion de ce qu'on avait dit la semaine dernière. En fait, ce qu'on avait dit, c'est que quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va nous donner sa lumière. Seulement, c'est une lumière qui est tellement forte qu'on risque d'exploser. Donc, on doit, à chaque fois, on doit immuniser les circuits. C'était ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on immunise le circuit. Donc, imaginez par exemple que tu as un juif pieux qui a fait toutes les mitzvot, mais qui n'a jamais fait la mitzvah, par exemple, de prêter de l'argent. Voilà, en ce moment, on a parlé de prêter de l'argent. Il n'a jamais fait cette mitzvah parce qu'il n'a jamais eu d'argent à prêter.
Ah oui, par exemple. Oui.
D'accord, bah oui. Donc, le pauvre, tant qu'il n'a pas prêté de l'argent, il devra redescendre sur terre. Parce qu'il n'est pas immunisé contre cette mitzvah, contre cette lumière. On a expliqué que chaque personne doit être immunisée, doit être passé par toutes les mitzvot au moins une fois. Au moins par les 113 mitzvot. Ok ? Donc on a expliqué ça longuement la semaine dernière. Ok. Au moins une fois. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je comprends bien ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Il y a la notion qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une mission et qu'on va être jugé en haut sur ça. Est-ce qu'on a accompli notre mission, est-ce qu'on n'a pas accompli notre mission ? Ça, c'est une chose. Mais on te dit, même si tu as une personne qui, globalement, à 99% a accompli sa mission, s'il n'a pas encore accompli les 613 mitzvot, s'il lui manque une mitzvah, même pour une mitzvah, il doit redescendre sur terre.
Ah ouais.
Ouais. Pourquoi ? Parce que chaque mitzvah est un levouche et un vêtement. Et on est obligé d'avoir les 613 vêtements. En fait, ce n'est pas les 613 en vérité. C'est les 620. Pourquoi 620 ? Puisqu'on a 7 mitzvot des Rabbanan. Non. 7 mitzvot des Rabbanan.
Des Rabbanan. Comme,
oui.
Elles font quoi ? C'est lesquelles ?
On va voir, on va les citer. Par exemple, comme la mitzvah du Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, ce n'est pas une mitzvah de Torah. C'est une mitzvah des Rabbanan. La mitzvah du Hérouv, qu'on peut faire un Hérouv pour pouvoir porter dehors. C'est une mitzvah des Rabbanan. D'accord ? Il y a plusieurs mitzvot comme ça qui sont des Rabbanan. Plusieurs mitzvot, il y en a une série de mitzvot qui sont des Rabbanan. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est quoi ? C'est qu'en fait, rappelez-vous la question qu'on s'est posée, c'est comment ça se fait qu'on accorde une importance tellement capitale à l'étude de la halakha. Comment on a commencé à répondre ? On n'a pas encore répondu à la question.
Bah, c'est la base.
On a expliqué qu'en vérité, les 613 mitzvot, c'est pas seulement que le but est de savoir comment on doit se comporter. On a expliqué que quand un juif fait une mitzvah, il y a quelque chose qui se passe. Il est immunisé contre quelque chose. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste que je dois faire un mitzvah. C'est-à-dire, j'explique ce que je veux dire. L'erreur à ne pas faire. Les gens, ils pensent que les mitzvot, c'est comme un mode d'emploi. C'est-à-dire, tu achètes un micro-ondes, on donne un mode d'emploi. Aujourd'hui, dans les micro-ondes, t'as 50 modes. Donc on va te donner le mode d'emploi pour les 50 modes. Donc il y a des gens qui pensent, disent la même chose. La mitzvot, c'est comme un mode d'emploi. Ça veut dire que personne ne va utiliser les 50 modes. Si tu en utilises 5, c'est déjà énorme. Donc les gens, ils pensent, les mitzvot, c'est ça. Les mitzvot, c'est, on te donne 613 modes, et bon, si tu en utilises 10%, bah tant mieux pour toi. En vérité, c'est pas ça, on te dit pas du tout. On te dit, tu devras passer par chaque mitzvah. Chaque mitzvah, tu devras passer par chaque mode. Et tant que tu n'es pas passé, on te refera prendre le même micro-ondes. On te refera essayer tous les modes, parce que tu dois essayer tous les modes. C'est pas seulement, si tu vas utiliser la Torah, voilà comment tu devras le faire. C'est pas ça, les mitzvot. Les mitzvot, c'est plus que ça. Tu dois passer par tous les modes. Maintenant, on va expliquer, et maintenant, on va prendre la page 3, là. Regardez.
Mais,
allez-y.
On dit que la Torah, c'est un... Comment dirais-je ? C'est la colonne vertébrale à suivre pour
Pour les mitzvot.
Pour les mitzvot.
J'ai compris.
Et donc, si on ne les fait pas, bah, tu viens de dire qu'on ne monte pas...
Là, on a expliqué, j'entends ce que vous dites, vous avez raison. C'est vrai que l'étude de la Torah est très importante.
Donc, c'est le mode d'emploi.
Mais on a expliqué, les mitzvot, d'ailleurs, ça c'est le thème du cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donner plusieurs exemples concrets. On va expliquer comment on a besoin de la Torah. On a besoin de la Torah orale pour nous expliquer. Mais que concrètement... Tant qu'on n'a pas fait la mitzvah concrète, l'effet ne s'est pas fait.
Mais quand tu dis concrète, c'est bien la faire, en respectant le mode d'emploi.
Je vais vous donner un exemple que j'ai donné une fois.
Regardez. Par exemple, pour Netilat.
J'ai expliqué, je vais vous donner un exemple. On va donner deux scènes. Imaginez-vous la première scène. Vous avez un juif qui est très religieux et qui a été mis en prison à cause qu'il est religieux. Comme on a eu des cas en Russie comme ça. D'accord ? Donc on l'a mis en prison. Arrive le soir du CDR. Il faut de la matza. Il n'a pas de matza. Donc, bien sûr, il ne mangera pas du pain. Il n'a pas de matza. Il veut faire son seder. Il doit manger de la matza. C'est une mitzvah, minatora, de manger de la matza le premier soir du seder. Il n'a pas de matza. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans tous les sens de la matza, mais il est en prison. Où tu veux qu'il trouve de la matza? Il va prendre des carreaux de sucre. Il va mettre trois carreaux de sucre l'un sur l'autre. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu, fais comme si c'était des matzot. Et il va lire toute la gada. Il la connaît par cœur, la gada. Il va lire toute la gada dessus. D'accord ? Ça, c'est la première scène. Mm-hmm. Maintenant, regardez une autre scène. Un juif, Ibiza, le sort du CDR.
Elle est extra.
D'accord ? Attendez.
Ibiza.
D'accord ?
Il aura bronzé au moins 18 minutes.
Il n'est pas au courant que c'est Pessah. Ça l'intéresse pas. Et même si tu veux le dire, ne me prends pas la tête. D'accord ? Il est en train de faire des bêtises. Il n'a pas du tout la tête à cette histoire-là. T'as un mafieux qui vient, qui l'attrape, il le tient par les cheveux, il lui met un flingue sur la tempe, il lui dit, écoute-moi bien, mange cette matza ou je te tue. Et là, il sait même pas ce que c'est, il prend la tête, il a pas le choix, on va le tuer, il prend la matza, il la mange. Sans bracha, sans rien. D'accord ? Je vous pose la question. Lequel a fait la mitzvah, lequel n'a pas fait la mitzvah ?
C'est qu'en prison.
C'est ça le piège.
Il a mangé.
Mais attends, l'autre il est là, il a mangé, il sait même pas que c'est de la matza, il a mangé pour qu'on lui laisse tranquille.
Cœur, il s'en foutait, c'est à cause du flingue.
C'est ça le problème.
Alors que l'autre il était en prison, il n'avait pas de matza.
Celui qui était en prison, il a eu la kavana, mais il n'a pas eu la mitzvah.
Bah ouais, tandis que l'autre il a fait la mitzvah, mais
sans la tandis que l'autre il a eu la mitzvah, mais il n'a pas eu la kavana.
Ah, ça compte comme mitzvah quand même.
C'est une mitzvah, il a mangé la matza.
Il a mangé, c'est ça qui compte.
C'est ça.
Il a répondu à la loi.
Il a mangé la matza.
Non, c'est l'autre qui a mangé, c'est le mafieux qui a mangé.
Non, mais peu importe.
Mais il a mangé la matza. Est-ce que son corps a administré la matza?
On s'en fout, il a quand même mangé la matza.
D'accord, rappelle Youssef, je l'avais déjà raconté cet exemple.
Oui, d'accord.
Donc celui qui a mis. Pour les tefillines.
C'est lui qui a mitzvah en fait alors.
Bah oui.
Le deuxième a fait la mitzvah, le premier n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que, pour répondre à la question de M. Bergel. Parce qu'en vérité, c'est vrai que la Torah, c'est le mode d'emploi qui nous apprend comment faire les mitzvot. Mais une mitzvah, l'aspect le plus important de la mitzvah, c'est l'aspect technique, l'aspect pratique. C'est l'acte.
Ah, c'est côté matériel. Après,
que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, c'est un bonus. D'accord ? Ce qui compte, c'est que tu l'as fait. Après, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, c'est une autre histoire. Mais ce qui compte, c'est que tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, on va expliquer, regardez. C'est un cours très intéressant aujourd'hui parce qu'on va donner des exemples concrets. On va prendre des choses telles qu'elles sont écrites dans la Torah écrite, et on va expliquer comment, sans la Torah orale, on n'aurait rien compris. Et pourtant, le plus important, c'est d'accomplir la mitzvah dans le sens pratique. Regardez, on va donner des exemples, vous allez tout comprendre. Donc on est au milieu de la page 300. Mmh. On nous fait du chemin, bon, prochaine. Alors, la ligne qui commence par Chelek Aleph, en fait, il y a un point, Ve'iné, Modadzot, vers le milieu.
Ve'iné, oui, c'est.
Tu vois ?
Je cherche.
Donc, je dis, ouais. Tu vois, parce que comme on a sauté, tu auras du mal à...
Non,
300.
C'est après.
Juste ici, voilà.
Voilà.
Ah, oui. Véine. Ah, oui, quand c'est rien, tu vois.
Oui, mais là, il a...
Ah, voilà. C'est entre les deux...
Voilà, mais il est modade. Bonsoir.
Les deux encadrés.
Ah, ça va? Ah. Voilà, on vient de finir le résumé de... Quoi?
Attends.
J'ai
devant
la porte. Non, j'ai lavé, là.
Ah, c'est lavé, là.
C'est ouais, l'eau qui a lavé.
Parce que je suis venu, j'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est tout mouillé.
Ok. Ine modadzot, ki ine ratzon elyon baruchu amelubash betarek mitzvot shebatora. Il explique comme ça. Il dit, c'est connu que... Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer dans le cours d'aujourd'hui, c'est pourquoi particulièrement dans les halachot de la Torah, c'est dans là que va se dévoiler... Le Ratson à Elion, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi particulièrement dans la Halachot?
Ah, tu l'utilises déjà? D'accord.
Bonsoir. Oui, vous me suivez? Donc, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est comment ça se fait que c'est particulièrement dans les Halachot qu'on va dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Page 300, au milieu de la page. Inemodadzot, c'est connu. Qui ratson al kin et ratson al yon baruch hu amelubash betar et mitzvot shebetora shebirtav. La volonté de Dieu qui est habillée dans les 613 mitzvot de la Torah écrite ou moufla ou mechousse tamir venelam. Veinomit galé et la betora shebalpe. La semaine dernière, on avait expliqué longuement que la chose la plus forte qui a chez un homme, c'est quoi? C'est la volonté.
La volonté.
Ça, on a expliqué la semaine dernière. Donc, il te dit comme ça. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est les mitzvot. Où les mitzvot sont écrites? Dans la Torah écrite. Le problème, c'est quoi? C'est que les mitzvot, telles qu'elles sont écrites dans la Torah écrite, elles sont, comme il dit ici dans les termes, c'est caché, d'accord? Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre sans la Torah orale. Il va donner des exemples concrets. Regardez. Comment, par exemple? Mitzvot filin al derech machal. On va donner des exemples. Donc, rappelez-vous, nous, ce qu'on veut expliquer ici, c'est l'importance d'étudier les halachot. Donc, on va donner un exemple concret. Par exemple, la mitzvah de tefillin. Il y a une mitzvah de tefillin qu'on doit faire tous les jours. Chez Neymar, Betorah chez Birtav. Tu as la page 300?
300.
Alors, tu prends la page 300, on est au milieu.
Ah, c'est même que...
Ouais, mais là, c'est... voilà, 300. Ici. Chez Neymar, Betorah chez Birtav. C'est écrit dans la Torah écrite. Ukshartam le'ot aliadecha, vehayu le'totafot ben enecha. Quand on cherche dans la Torah, hein, écrite... Quand on parle des tefillin, on s'imagine que dans la Torah écrite, on va nous parler de ce qui doit être écrit à l'intérieur des tefillin, de la couleur des tefillin, du nombre de lanières, d'accord? Rien de tout ça. Il y a un seul passouk dans la Torah, il y a exactement 8 mots dans la Torah qui parlent des tefillin. Tu dis comme ça, tu les attacheras en signe sur ta main, et ils seront placés entre tes yeux. C'est tout.
Et qui c'est qui a dit qu'il faut 4 parchemins?
Tout ça, c'est pas écrit.
Et la couleur et tout ça?
Rien.
Les cuillères, ouais.
La Torah écrite te dit rien sur les tefillines. Ah, c'est l'exemple le plus connu, ça. Parce que ça, tu cherches dans la Torah écrite, il y a 8 mots sur les tefillines, c'est tout, rien d'autre. D'accord? Alors après, ces 8 mots, ils sont répétés ailleurs, dans d'autres endroits, avec d'autres mots, mais c'est à chaque fois le même truc. On te dit, ils seront attachés sur ton bras, et ils seront placés entre tes yeux. Ou Mahamar Satoum Benalam. Ça, c'est un exemple d'une halakha, que si tu prends que la Torah écrite, il est complètement caché. C'est crypté. C'est même crypté. Chez l'Opira Shakatoub, Ech ou Malik Shor. D'abord, regardez le nombre de problèmes qu'on a dans ce verset. D'abord, la Torah te dit tu les attacheras. J'attache quoi? Tu les attacheras comme si tout le monde doit savoir ce que je vais attacher. Je ne sais pas ce que je vais attacher. Donc la Torah ne t'a pas expliqué comment attacher et quoi attacher. D'abord, attacher, ça veut dire quoi attacher?
Et où attacher?
Exactement.
Oui, entre les yeux.
Comment attacher? Non, attendez, avant de parler entre les yeux, on va parler du bras. On va prendre le pasouk, texto. Parce que tu dis, tu l'attacheras en signe, d'accord, sur ta main. Comment je l'attache? Je fais un nœud sur la main? Et c'est quoi la main?
C'est sur ta main ou ton bras?
Et c'est quoi exactement? Yadecha, yad, c'est la main. Alors quoi? Ça veut dire, je prends un truc, je fais un nœud ici? Un nœud? Papillon, qu'est-ce que je fais? Je fais un nœud sur la main, c'est ça? La Torah ne t'a pas expliqué comment attacher. Elle t'a même pas expliqué quoi attacher. Tu les attacheras. C'est quoi les? Quoi les? Torah n'a rien dit.
Elle t'a pas dit non plus quand, ni...
Ni rien. C'est-à-dire, elle t'a donné ni le mode d'emploi, ni elle t'a expliqué qu'est-ce que tu dois attacher.
Et d'où on
te... attendez, ou Maou Totafot. Tu m'as dit à propos des tefillines de la tête, ils seront en Totafot. C'est quoi les Totafot?
Un fronto.
D'accord, alors Totafot, c'est un mot qui n'est pas en hébreu.
C'est un araméen?
Ah bon.
C'est même pas un araméen.
Ah, c'est un gros.
C'est un africain.
Un quoi?
Un africain. Tatpat.
Dans la Torah, il y a un africain.
Tatpat, ça veut dire 2x2. Ouais, c'est pas des blagues. Regardez Rachid, vous verrez. C'est de l'Africain.
On va chercher sur Google. Ah, on est moderne, on est déjà dans la mondialisation avec les
textes. Quand dans la Torah, il y a des mots en africain.
Oui, encore tous ces...
Parce que le mot totafot est un mot qui ne veut rien dire, ni en hébreu, ni en araméen. Qu'est-ce qui veut dire le mot totafot? D'accord? Tat veut dire deux, fat veut dire deux. Ouais. Deux fois deux. C'est le filine de la tête, de là on apprend qu'il y a quatre cavités. C'est-à-dire le mot totafot, on ne savait même pas ce qu'il voulait dire. En plus, il te dit, Veayu les totafot, ils seront en totafot, ben enecha, entre tes yeux. C'est où entre les yeux?
C'est face à toi.
Alors attendez.
Mais oui,
c'est là.
Mais c'est ça le problème. C'est quoi totafot? D'abord, on ne sait pas ce que c'est le totafot. Et on ne sait pas ce que c'est entre les yeux. Entre les yeux, ça veut dire je le mets là, je le mets là. Ou est-ce que ça veut dire je le mets dans le mur et j'ai pris devant?
Oui.
Ah oui.
Ah bah oui.
Ça peut être ça.
C'est quoi totafot alors? La Torah ne te précise pas. Ah, chez Pircha, Torah chez Béalpé. Jusqu'à ce qu'est venu la Gemara Mnachot, page 34. Là-bas, la Gemara Mnachot a expliqué. Elle a expliqué que quand on dit que tu vas les attacher, c'est quoi les attacher? Attacher quoi? Alors d'abord, tu vas attacher la paracha dans laquelle c'est écrit la mitzvah des tefilines. Donc c'est la paracha du schéma. D'accord? Alors oui, j'ai compris, mais ça c'est même maintenant qu'on est.
Mais tout à fait,
c'est un badge.
C'est un quoi?
Un badge.
C'est quoi un badge?
Badger,
télégramme en direct du ciel.
Voilà. C'est pas de l'africain, non?
Non, maintenant.
C'est l'explication, c'est la traduction moderne.
Maintenant, on a traduit ça moderne. Mais à la base, vous verrez dans Rachid.
D'accord. De l'hébreu.
Oui, en hébreu moderne.
Non, mais excuse-moi, tu me dis que c'est écrit en africain. Mais à l'époque, il n'y avait pas de plusieurs langues. Il n'y avait pas encore le Zoubabel. Babel. On n'a pas encore plusieurs langues.
Non.
À l'époque de la Torah.
Babel, bien sûr.
C'est 1000 ans en arrière, Babel.
Babel, c'était juste après Noir.
Quel mur? 1500 ans en arrière, c'était. Ça fait longtemps, dis-je.
Ah, d'accord.
Donc, je reprends. Ça veut dire, là, on va prendre un exemple. Rappelez-vous, on veut expliquer ici l'importance d'étudier.
Mais t'as dit que la Torah. Non, si tu dis que la Torah existe depuis la création du monde, tu peux te poser cette question.
Non.
Donc, je vais répondre. On essaye de répondre ici à la question de Monsieur Bergel. Monsieur Bergel a posé la question suivante. Il a dit, pourquoi on nous dit que c'est grâce au Halakhot qu'on apprend la volonté de Dieu? Pourquoi on ne dit pas qu'en étudiant la Torah, j'apprends la volonté de Dieu? Là, il t'explique, il te dit, regarde, on va prendre un exemple des tefilines. Si tu étudies le Chumash, la Torah, est-ce que tu comprends c'est quoi la volonté de Dieu? Non, tu n'as aucune idée c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que par exemple, on te dit les tefilines, on te dit, tu vas les attacher en signe entre tes mains. Puis c'est même pas ce que tu dois attacher, comment tu dois l'attacher. Donc tu ne sais pas la volonté de Dieu, tu ne sais pas ce que tu dois faire.
Ouais, mais attends, mais dans certains parachutes, on te dit, tu fais ça et ça, tu as des bénédictions. Tu fais ça et ça, tu as des bénédictions. Donc tu sais déjà.
Ce qu'il veut expliquer ici, c'est que la majorité de la Torah écrite est cryptée. Et que si tu fais pas appel à la Torah orale, qui va t'expliquer comment faire la halakha, tu peux rien faire. Donc la Torah écrite, c'est pas de la halakha. On va expliquer. Je vais donner des exemples. Ah, Tchepircha, Torah Shebaalpe. Jusqu'à ce qu'est venue la Torah orale. Et que la Torah orale a expliqué, dans la Gemara Mnachot, elle a dit, Shetzarich Likshor, Bait Echad Alayad, Vedalet Batim Alaroche. La Gemara va t'expliquer qu'il faut mettre un boîtier sur le bras et quatre boîtiers sur la tête.
Non, un boîtier divisé en quatre.
Donc ça fait quatre. Parce que ça, tout à faute. Tout à faute, c'est deux fois deux. C'est quatre boîtiers.
Quatre
cavités. Dalet batim. Arba batim. Quatre maisons. Ça veut dire quatre cavités sur la tête. Ou betoram, dalet parachot. Mais attendez, ça aurait pu être des boîtes vides. Parce que la Torah t'a pas dit qu'il doit avoir à l'intérieur. La Gemara va t'apprendre que la volonté de Dieu, c'est que à l'intérieur de ces cavités, il doit avoir des parchemins. Et elle va t'apprendre qu'est-ce qui doit être écrit dans ces parchemins. Et sur ça, tu auras une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam.
Par exemple.
Les deux
bah oui.
Différentes.
Enfin, c'est pas fini. Ve'abatimiyu meor meubad. Maintenant, la Torah ne t'a pas dit de quoi doit être fait ces quatre cavités. Est-ce que je peux les faire en plastique? Est-ce que je peux les faire en bois? D'accord. La Gemara va t'expliquer toujours par des allusions qu'on va apprendre, des psukim, etc., avec des allusions, que les bâtiments doivent être faits, c'est-à-dire que ces fameux boîtes doivent être faits avec du cuir qui a été travaillé, et c'est très difficile à faire ça avec du cuir. Aujourd'hui, on le fait avec des machines.
Oui,
d'accord? C'est extrêmement difficile à le faire. Vous savez que les presses, il y a une pression de 50 tonnes pour faire un produit comme on a aujourd'hui.
Bien sûr,
extrêmement difficile de faire avec du cuir, d'avoir des produits comme on a aujourd'hui. Prenez du cuir, vas-y, prends du cuir, et fais-moi les tuniques qu'il y a aujourd'hui.
Carré comme c'est,
dur comme c'est. Il faut tasser énormément. C'est un travail énorme.
Il faut compresser
énormément. Ça, si tu m'avais pas dit qu'il faut faire en cuir, j'aurais pu dire, les tefilines, je les fais en bois.
C'est en bois.
D'accord ? En bois, je fais du bois en bois.
Mais là, il n'y a qu'à voir la densité que ça.
Ah oui ?
La densité que ça.
Ah, c'est une densité énorme. C'est...
Pour le poids, c'est...
Si vous voulez, je vous montrerai un jour une vidéo sur ça.
La densité, elle est lourde, c'est lourd.
À l'époque, il n'y avait pas de presse.
Ils devaient se débrouiller avec des meules, avec tout ce que tu veux.
Ah, déjà, ils arrivaient à obtenir un résultat qui était peut-être...
Qui n'était pas aussi précis que le nôtre. Les tefilines qu'on retrouve aujourd'hui n'étaient pas aussi précis que le nôtre. Ils étaient carrés, ils devaient être carrés, mais c'était pas, on n'avait pas un travail lisse comme le nôtre.
Mais
ils faisaient avec des meules, avec, il y avait beaucoup de techniques. Donc...
Est-ce que... Pardon, on peut parler encore des tefilines.
Oui.
Est-ce que c'est une technique qui est perfectible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut obtenir mieux que ce qu'on a aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr.
Le chinois, tu peux te dire.
Non, il a raison. Non, c'est une bonne question.
Ils te font moins cher.
La massorette, la tradition est que sur le cahier des charges. C'est-à-dire, on a un cahier des charges, que ça doit être carré, la taille, qu'est-ce qui doit être à l'intérieur. Après, si tu veux faire des hydorimes, t'as des hydorimes de mieux en mieux. Par exemple, l'histoire qu'aujourd'hui ils font maintenant, t'en as qui font les lanières noires des deux côtés. Oui. Ça n'existait pas avant. C'est nouveau. D'accord, c'est nouveau. C'est un concept qui est nouveau.
Pourquoi c'est mieux?
Non, c'est...
Bon, il y en a qui... Pourquoi pas, ça peut être mieux. Mais avant, ça n'existait pas. Dans les lanières qu'on a trouvées dans les films d'avant, ça n'existait pas. D'accord ?
C'était naturel.
Voilà. Aujourd'hui, ils ont réussi à trouver une technique, d'accord,
pour le...
qui permet de teindre en noir des deux côtés et que ça tienne des deux côtés. Bon,
on nous dit pourquoi la couleur noire ?
Alors.
Parce que le cœur, à l'origine, il est marron.
Bonne question.
Va
batimiyu, meor meubad. Regardez le nombre de détails qu'on va apprendre par la halakha. Des détails qui ne sont pas écrits dans le Chumash. On a déjà appris que il y a un boîtier dans le bras, quatre boîtiers dans la tête. On a appris qu'à l'intérieur de ces boîtiers, il devait avoir des parachutes. Chose qui n'est pas écrite encore une fois dans le Chumash. On a appris que ces boîtiers doivent être composés de cuir. D'accord? On a appris également qu'ils doivent être merubaim d'afka. Qui te dit que le boîtier doit être carré? Peut-être qu'il peut être rond, peut-être qu'il peut être rectangulaire. C'est écrit nulle part. D'accord? Ça, c'est la Gemara, c'est la Halakha qui te l'a appris, en se basant sur des plein de détails que nous, jamais on aurait pu trouver tout seul. J'ai pas fini.
Et puis la taille.
Maintenant, on aurait pu te dire, ok, dans ce cas-là, ce boîtier, je peux l'attacher avec une ficelle. Non. On te dit, ou mes kusharim birtsuot shel or, tu dois l'attacher avec des lanières qui, elles aussi, sont en cuir, shrorat dafka, et des lanières qui doivent être noires. Tous ces détails que je vous dis, c'est pas écrit dans le Chumash. C'est pas écrit explicitement dans le Chumash. Pourtant, on est persuadé que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on mette des tefilines comme ça. Ça veut dire que celui qui veut accomplir la volonté de Dieu ne peut pas dire j'étudie que le Chumash. On est obligé de passer par la halakha pour savoir quelle est la volonté. Regardez tout le nombre de détails. Si on manquait ne serait-ce qu'un seul détail de ces détails, les tefilines ne sont pas cachées. Ve'al shi'ar pratei yuchot tefilines ainsi que le reste des détails des tefilines, shenemro be'alpe, qui ont été dit pareil à l'oral. Ça veut dire des détails que, plein de détails qu'on a trouvé, qui n'ont pas été écrits dans la Torah. Par exemple, regardez. Ve'al yadecha. On te dit que al yadecha sur ta main. Normalement, yad en hébreu, ça veut dire quoi? Le mot yad en hébreu, ça veut dire quoi? C'est la main.
C'est pas le bras.
Mais les chachamim m'ont appris que yad, c'est quoi yad? C'est pas la main. C'est pas la paume de la main, mais c'est le haut du bras. Ça, c'est un truc que tout seul, jamais t'aurais pu trouver. Normalement, dans toute la Torah, chaque fois qu'on parle de yad, c'est toujours la main. Il y a toujours le zeroa. Zeroa, c'est le bras. Et yad, c'est la main. Toujours dans le Chumash. Par exemple, quand on dit que Dieu a le bras long, on parle de Zoroa Netuya. Et quand on parle de Yad, toujours Yad en hébreu, dans la Torah, c'est la main. C'est la main. D'accord? Par exemple, quand on dit dans la Torah qu'il y a un qui a levé sa main pour frapper l'autre. La Torah te dit si une personne va lever sa main pour frapper l'autre. Yad! C'est la main. D'accord? On dit avec la main, on va attraper, avec la main, on va donner un coup. Toujours avec la main. Yad, c'est la main. Donc, quand la Torah te dit que tu devras mettre les tefilines sur Yadecha, normalement, le pshat, c'est que les tefilines doivent être là. Ici, tu les attaches. Viens à la Gemara pour t'expliquer, elle te dit, alors on va t'apprendre avec des drachotes, on va te dire non, on va comparer ce mot avec un autre moyen, etc., avec des trucs que jamais on n'aurait pu trouver seul, pour te dire non. Yad, ça veut pas dire ici, Yad, ça veut dire là. Ça, c'est un détail qu'on n'aurait jamais pu trouver tout seul. Pareil. Si je dis Ben Enecha, entre les yeux, on va mettre de côté l'hypothèse qui dit qu'entre les yeux, c'est-à-dire s'accrocher au mur. Si je te dis, mets-le entre tes yeux, voilà, Serge te dit, prends ce téléphone, mets-le entre tes yeux. Instinctivement, tu le mets où?
Sur le nez, presque.
Là, comme des lunettes. Mmh. D'accord? Qui va te mettre dans la tête de le mettre là? Personne.
Et en plus, bien haut.
En plus,
de la racine,
personne va te mettre dans la tête de le mettre là. D'accord? Personne, c'est impossible.
Donc, c'est entre yeux, en fait.
Mmh.
Donc, on écoute plus le...
Donc, normalement...
Oh, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un coup, on disait qu'il
des nerfs optiques qui se rejoignent ici.
Ah, j'ai compris, mais bon, le pshat maintenant. On se dit ben et nerha entre tes yeux.
Mais à part, c'est une remarque.
Ah, d'accord. Il y a une symbolique qui va jouer. Parce qu'après, regarde, excuse-moi.
Même pas au niveau de la symbolique, au niveau de...
Bah, ça rejoint justement le fait que ce soit entre les yeux.
Oui,
c'est là, oui. Un peu détourné, mais ça rejoint. Oui, non, mais c'est pas
ça,
logique.
C'est ça qui voulait faire le conférencier, enfin le mec qui donnait le cours, mais c'était juste une remarque.
Si tu dis que c'est au niveau d'entre les yeux, d'accord, normalement, entre les yeux, c'est là. Si tu dis qu'entre les yeux, ça veut pas dire entre les yeux, mais ça veut dire au niveau entre les yeux, tu peux les mettre là comme tu peux les mettre là. Que ça change.
Non, mais c'est justement ce que je te dis, c'est que c'est marqué entre les yeux, nous on a tendance à les mettre là, les rabbinim ils nous ont dit de les mettre là.
Alors,
il se trouve que.
Il se trouve, d'accord. Voilà, alors, la Gemara explique.
Il y a quelqu'un qui borne, et qui est borne, il cherche encore, il doit mettre les téphilim, tu sais.
Voilà.
Là, D'où on sait pour les téphilim que les téphilim doivent être ben enecha, on apprend du tzitz. Parce que le tzitz que le Kohen devait mettre. C'est le Kohen avait comme une sorte de le Kohen Gadol avait comme une sorte de diadème et le tzitz c'est écrit là-bas aussi Ben Enecha et le tzitz on sait qu'il était posé ici donc on comprend que c'est là qu'il doit être posé mais bon c'est les drachas tout ça mais ça veut dire c'est autant de détails.
Pardon, c'est un rapprochement qui est fait.
C'est un rapprochement, voilà, c'est un rapprochement qui est fait. D'ailleurs Bezrat Hashem dans le cours du mercredi là la nouvelle série qu'on va faire, on va étudier les 13 principes qui vont expliquer comment on fait ces rapprochements. Ça va être le thème. Donc Ben Enecha Zekot Kod Vela Metzach. La Gemara là-bas va te dire que c'est quoi Ben Enecha entre les yeux? C'est le front, c'est le crâne et pas le front. Tout ça, c'est les détails pour te dire simplement donc comment mettre les tefilines. Donc on a appris qu'est-ce qu'il doit avoir dans les tefilines et comment de mettre les tefilines. Ça veut dire comme ça. Pourquoi il nous explique tout ça? Il te dit, moi, pourquoi je fais une mitzvah? Je veux accomplir la volonté de Dieu. Je veux accomplir le Ratson Haelyon, la volonté suprême, la volonté de Dieu. Donc moi, je veux faire les choses bien. Ici, je lis le Chumash. Je ne sais pas comment accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour accomplir le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas moyen de faire quelque chose qui est différent de ce qui est écrit dans la Halakha. Je voudrais illustrer ça avec un exemple. Pourquoi c'est important? Pourquoi à chaque fois on parle de volonté? En Chassidut, on amène l'exemple suivant. Dans un des Ma'amarim, je crois, du Rabbi Racha, il amène l'exemple suivant. Il dit, imaginez-vous un roi qui a demandé à ce qu'on lui construise un palais. Il a eu une volonté, il voulait qu'on lui construise un palais. Et bon, donc il a amené les architectes, les meilleurs architectes. Et il leur a dit, je veux donc qu'on construise ma chambre qu'il y a dans le palais, je veux que la peinture qu'il y a dans ma chambre soit de cette couleur. Il a montré une couleur. D'accord? Il a montré une couleur, il a dit exactement comment il voulait que ce soit. Maintenant, les architectes, ils ont fait le mieux possible. Ils ont fait une couleur, mais c'est pas exactement la couleur que le roi a demandé.
Il n'a pas donné le pantone.
D'accord? Mais il a fait, ça veut dire qu'ils ont fait un super boulot. Qu'est-ce que le roi, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va piquer une crise, il va dire, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, volonté. Pourquoi? Alors là-bas, dans ce maman, il explique la différence. Il dit comme ça. Il dit, si la chose que je recherchais était une chose logique, c'est-à-dire j'ai un projet, j'ai un cahier des charges, d'accord? Dans mon cahier des charges, par exemple, je sais pas moi, j'ai 100 éléments, et que sur les 100, on en a fait 99. Quand on te présente le projet, tu dis, bon, c'est pas grave. J'en ai 99 sur 100, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, parce que c'est pas une volonté. C'est quelque chose que j'ai un projet qui correspond à quelque chose, à une volonté logique. Mais quand j'ai une volonté, j'ai un ratson, je veux quelque chose. Si tu me donnes pas exactement ce qui correspond à ma volonté, ça passe pas. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut quelque chose, tu lui dis, mais attends, je te propose autre chose, qui est peut-être même mieux des fois. Quand je veux quelque chose, je veux ça et rien d'autre. Il explique là-bas, il dit, c'est la même chose pour les mitzvot. Pourquoi je fais une mitzvah? Les mitzvot dans le Zohar s'appelaient ratson ha'elyon, c'est la volonté de Dieu. Une volonté, c'est pas quelque chose qu'on peut faire des approximations. De dire, bon, voilà, c'est la même chose, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a si les lanières sont grises au lieu d'être noires? Que ça change. Sur ton cahier des charges de 100 points, j'ai fait 99. Ça va. C'est pas la fin du monde, dis-moi merci. Si tu manques un élément, tu peux reprendre ton produit, on veut pas de ton produit. C'est ça le ratson, c'est ça la volonté. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec un projet qui est logique. C'est le ratson, c'est la volonté. La volonté, c'est pas logique. Il te manque un détail, c'est pas bon. Ça, on le voit dans les mitzvot. Pourquoi on fait une mitzvah? Pour accomplir la volonté de Dieu. Celui qui étudie maintenant le Chumash et qui n'étudie pas la Halakha, qui ne veut pas étudier la Halakha, on lui dit, toi tu vas accomplir la volonté de Dieu. Si tu n'étudies pas la Halakha, si tu n'étudies pas la Gemara qui explique la Halakha, tu ne sauras pas comment accomplir la volonté de Dieu. Et avec la meilleure volonté au monde, tu crois que tu vas accomplir la volonté de Dieu, mais tu n'accompliras pas sa volonté parce que dans sa volonté, il y a beaucoup de détails que tu ne retrouveras seulement dans la Halakha. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. On va donner un autre exemple encore plus fort que celui-là. Vechen pare. Kol mitzvot sheba Torah. Toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, toutes. Ben mitzvot assez, ou ben mitzvot lota assez. Que ce soit les mitzvot positives, et que ce soit les mitzvot négatives. Vous avez dans les mots ? Alors, je suis trois lignes avant la fin de la page. Deux lignes maintenant. Enan gluyot veyeduot emfurashot. Elles ne sont dévoilées, connues et expliquées, et la aliédé Torah shebealpé seulement au travers de la Torah orale. Ki mitzvot lota assez chez Neymar beshabbat. On va prendre un exemple classique. Prends les exemples classiques. Il y a une mitzvah de la Torah, la mitzvah du Shabbat. D'accord ? Qu'est-ce que la Torah dit à propos du Shabbat ?
Le feu.
D'accord ? Alors, non, le feu, c'est une mitzvah. D'où on sait tous les travaux qu'on n'a pas le droit. Le feu, c'est un interdit.
La construction de...
Alors attendez, mais d'abord, on va voir qu'est-ce qui est écrit dans la Torah écrite. C'est l'interprétation.
Ah, pardon.
On va voir ce qui est écrit dans la Torah écrite.
Il n'est pas dit clairement dans la Torah écrite qu'il ne faut pas allumer le feu.
La Torah écrite, qu'est-ce que ça te dit ? Elle te dit comme ça. Elle te dit Lo ta'aseh melacha. La base de toutes les melachot, c'est quoi ? La Torah te dit tu ne feras pas de travail.
C'est ça. Hein.
Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi un travail ?
Quand je fume un cigare, je travaille pas.
Alors, qu'est-ce que te dit la logique ? Alors, oubliez tout ce que vous connaissez sur la melachot de Shabbat. D'accord ? Là, je vais vous expliquer ce que Tosfot explique, le premier Tosfot dans le Maseret Shabbat.
Donc il a fallu trouver ce qui
oubliez,
était...
oubliez.
D'abord définir ce
qui exactement. Voilà, oubliez tout ce que vous connaissez. Je vous pose une question. Là, imaginez-vous que je viens te dire. Voilà, imagine-toi Serge, je viens te voir. Je te dis dorénavant le mardi, tu travailles pas. C'est quoi un travail pour toi ?
Gagner de l'argent.
D'accord. Donc, comment tu t'imagines, comment tu définis un travail ?
Donc,
si la Torah, d'après toi, te demande de te reposer et de ne pas faire de travail, donc, ça veut dire que c'est quoi un travail ?
C'est
quelque chose qui demande des efforts.
C'est une activité.
Quelque chose qui fatigue. Donc,
mais par définition, pardon de te couper. L'explication scientifique de travail, c'est une force.
Très bien. Donc, si maintenant je te dis par exemple, je veux prendre la voiture pour aller à la synagogue, est-ce que ça plaît un travail ?
Non.
Si je te dis par exemple maintenant, j'ai envie de déplacer une table qui est très lourde, qui pèse 100 kilos, est-ce que ça s'appelle un travail ?
Non.
Ça peut être un travail, puisque c'est lourd.
Ouais, mais à l'intérieur, alors, à l'extérieur...
Voilà, justement, il n'y a pas de logique. Parce que, imagine-toi que cette table, elle est très lourde, cette table, hein, tu peux essayer de la porter. Imagine-toi que cette table, elle fait 100 kilos. Et que Shabbat, j'ai envie de la déplacer. Si je prends la Torah texto, la Torah qui te dit « Lota se melacha », ne fais pas de travail, ça veut dire que j'ai pas envie de la déplacer, parce que ça va me fatiguer. Pourtant, c'est permis. Alors, ça veut dire que le concept, la Torah ne voit pas du tout le travail comme nous, on voit le travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est Tosfot qui explique dans le premier Tosfot, un des premiers Tosfot dans le traité Shabbat. Il dit que Otsaha, et là-bas il dit la chose suivante, il dit que la mlacha de Otsaha, c'est-à-dire faire sortir d'un domaine à l'autre, il dit que c'est une mlacha qui n'est pas logique. Il dit une personne peut sortir une aiguille du domaine privé au domaine public, il a fait un interdit, et il va porter une poutre dans le domaine privé, il n'a pas fait d'interdit. C'est quoi la logique ?
C'est pour ça que même ceux qui font Shomer Shabbat, le truc qui arrive, ils n'arrivent pas encore à faire, c'est cette notion de...
Mais c'est très compliqué, parce que, la Torah...
Ils restent dans faire Shabbat et tout, et des années, ils n'arrivent pas à enlever encore...
Bien sûr. Si la Torah t'avait dit explicitement les choses, encore, on aurait accepté, mais la Torah ne t'a même pas dit explicitement. Elle t'a dit, tu ne feras pas de travail. D'accord ? Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est tout ça qui explique ça. Mais ça veut dire que c'est illogique. La Torah te dit, lo ta'aseh melacha, tu ne feras pas de travail. Dans ma tête, c'est quoi un travail ? Un travail, c'est quelque chose qui fatigue. Donc quelque chose qui ne fatigue pas, ou quelque chose qui va me reposer, ça devrait être permis. Donc si une personne a envie, par exemple, de prendre la voiture pour aller à la synagogue, ou il veut prendre l'ascenseur pour monter au 30e étage, ça devrait lui être permis. Eh ben oui, c'est logique.
Au contraire.
Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Ben, Dieu me dit, ne travaille pas. Donc c'est quoi un travail ? C'est ce qui est fatigant.
Pas seulement. Je crois qu'ils définissent aussi... le lieu, c'est-à-dire le référentiel, c'est à la fois la définition du travail, mais c'est aussi où tu peux le pratiquer.
Alors voilà, bien sûr. Qu'est-ce que viennent te dire maintenant les Chachamim ? Les Chachamim vont te dire qu'est-ce qui est défini comme une melacha ? C'est les travaux qu'on utilisait au Mishkan. D'accord ? C'est un truc où tu acceptes ou tu n'acceptes pas.
Pourquoi aussi ?
D'accord ? Il n'y a pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une gzara.
Non, il y a pourquoi.
C'est-à-dire quoi, pourquoi ?
Le pourquoi.
Voilà. Oui, mais pourquoi on prend cela ?
Parce que pour nous, le référentiel du travail, c'est dans le Mishkan. Parce que dans le Mishkan, on devait utiliser tous les travaux pour construire. Non, donc pour nous, l'otas et melacha, si tu ne feras pas de travail constructif, qu'est-ce qu'il y a un travail constructif ? Il faut faire appel au Mishkan qui était juste avant. Parce que dans la paracha Vayakhel, on va parler du Mishkan. Et juste avant aussi, on parlait du Mishkan. D'accord ? Oh, c'est une gzera. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Mais ça veut dire encore une fois, celui qui prend que la Torah écrite, qui te dit tu ne feras pas de travail. Pour moi, un travail, c'est quoi? C'est un travail, c'est faire des choses qui sont fatigantes physiquement. Or, c'est pas ça le pshat de la Torah. Donc, on a encore un autre exemple qui est encore plus fort que les tefilines. Parce que, à la limite, dans les tefilines, la Torah ne t'a pas précisé. Puisque la Torah t'a pas précisé, je dis bon, la Torah n'a pas précisé ce que c'est les tefilines, les hachamim m'ont précisé ce que c'est les tefilines. Mais là, pour moi, dans le Shabbat, c'est encore plus fort. Parce que dans le Shabbat, le sens de la mitzvah va être contraire à ce qu'on peut comprendre de la Torah. Dans les tefilines, on t'a dit, tu mettras des trucs, on t'a pas dit ce que tu dois mettre. La hachamim t'a expliqué ce que tu dois mettre. Dès le départ, c'était pas clair. Mais dans le Shabbat, celui qui lit que le chumash, il comprend. La Torah t'a dit de pas travailler, c'est-à-dire ne fais pas quelque chose de fatigant. Les hachamim viennent te voir et te disent, non, t'as rien compris. Ça n'a rien à voir avec la fatigue, c'est pas ça un travail. Un travail, c'est ce qu'on faisait au Mishkan. Là, on a un exemple de quelque chose que tu ne peux pas accomplir la volonté du roi, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu, si tu n'as pas les ministres par derrière qui t'expliquent quelle est la volonté du roi. Ça veut dire que moi, je crois avoir compris ce que le roi m'a dit, et pourtant, j'ai rien compris. Tu as un ministre par derrière qui va t'expliquer, va te dire, attends, je vais t'expliquer ce que le roi voulait dire quand il parle de travail. Ça, c'est un travail. Pas ce que toi, tu crois être un travail. C'est-à-dire que des fois, c'est comme on voit ici dans le Shabbat, ça peut être contraire à ce que nous, on aurait pu comprendre. C'est même le contraire. Dans les mots. Donc, Kemitzvot lo ta'aseh shenemar be-Shabbat. Donc, on est dernière ligne. Lo ta'aseh melacha. À propos de Shabbat, c'est écrit tu ne feras pas de travail. Donc, velo piresh ma'i melacha. Il n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est un travail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on est tenté de dire? C'est quoi un travail? C'est déplacer les objets lourds. C'est quelque chose qui est fatigant physiquement. Ou betora chez Béalpé, dans la Gemara Shabbat. Nitparesh, on a expliqué, Shehen, la Metet, Melachot, Aïdouot, qu'un travail, ça correspond aux 39 travaux qu'on connaît. Velo, Tiltoul, Avani, Vekorot, Gvedot. Et que, un travail, c'est pas déplacer des pierres et des poutres qui sont lourdes. D'ailleurs, vous savez que c'est assur, Shabbat, de déplacer des pierres et des poutres qui sont lourdes, mais c'est pas assur Minatora, c'est assur Midrabanan. Pourquoi? Parce que les Chachamim m'ont interdit tout ce qui n'est pas Shabbatique. Parce qu'on considère que quand on déplace des choses qui sont lourdes, c'est pas shabbatique parce que ça se fait pas, Shabbat c'est pas un jour pour faire le ménage. Mais c'est-à-dire que Minatora, c'est pas la source de déplacer. Minatora, chez moi à la maison, je peux déplacer même un objet de 200 kilos, je vais être esquinté, je vais être alité après. La Torah t'interdit pas. Pourtant, ça va à l'encontre du sens simple du mot Melacha. C'est Midrabanan.
Mais pourquoi? Pour autant, c'est. Imagine, je veux faire de la place, le canapé il me gêne, je me mets à quelqu'un, je déplace un peu le canapé.
Mais la Torah, si c'est quelque chose de fatigant, c'est assourant.
D'accord.
Oui, et c'est beaucoup plus.
Midrabanan, pardon.
C'est beaucoup plus. Ce que tu viens de dire, c'est beaucoup plus contraignant que les travaux classiques.
Bien sûr.
Les 39 qui ont été identifiés.
À la limite, non, mais à la limite, franchement, à la limite, l'Ota Semelacha, on aurait compris que la Torah te dit. C'est comme chez l'égoïm, le dimanche. Qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Ils font.
Le jour du Seigneur.
Non, mais ça veut dire que c'est un jour où on ne se fatigue pas physiquement. C'est ça, chez l'égoïm. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On va sortir.
Détente.
C'est un jour de détente où on ne se fatigue pas physiquement. Ils n'ont pas tout ça. Et oui, mais ça veut dire que nous, si on n'avait pas la Gemara par derrière, si on n'avait pas la Torah chez Béalpé, on aurait compris exactement les Avdil comme les Goïm. L'Ota Semelacha ne fait pas de travail, c'est-à-dire c'est un jour qui est dédié à la famille. C'est un jour dans lequel on ne se fatigue pas physiquement. Viens la Gemara, va t'expliquer pas du tout, t'as rien compris, c'est pas ça. Un Melacha, c'est ce qu'il y avait dans le Mishkan. Ça n'a rien à voir avec la fatigue physique ou pas. Parce que par exemple, tu peux sortir une aiguille de chez toi, ça fait un interdit. Et plus que ça. Des fois, les travaux de Shabbat, des fois, faire Shabbat, c'est contraignant. Par exemple, quand on va te demander de faire des ceintures pour tes clés, et de marcher très loin pour aller à la synagogue, c'est-à-dire que des fois, le Shabbat, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, c'est contraignant. Vous voyez comment c'est à l'encontre de ce qu'on aurait pu comprendre du pasouk. Que l'autre, à ces melacha, on aurait pu comprendre, ne te fatigue pas. Ne te prends pas la tête. Viennent les chachamim, ils te disent non. Des fois, les melachot vont te prendre la tête. Donc, ça veut dire, encore une fois, on a un autre exemple ici qui nous montre que on ne peut pas accomplir le ratson à Elion, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si on ne passe pas par la Torah chez Balbé, par la Torah orale. On est obligé de passer par là. D'accord? C'est des choses évidentes, mais c'est un exemple. Il veut nous montrer avec ces exemples que la Torah écrite toute seule ne marche pas. Je continue. Il y a encore d'autres exemples. Le Kayut Sebaen. Encore plein d'exemples qu'on a encore ici dans ça. En kol mitzvot. Toutes les mitzvot. Ben mitzvot asé ou ben mitzvot lota asé. Que ce soit les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Hen stumot velo mefurashot ou gluot veyiduot. Toutes les mitzvot de la Torah sont par définition cryptées, sont fermées. Velo mefurashot, elles ne sont pas accessibles ou gluot ou yeduot. C'est pas quelque chose que tu lis, tu comprends. Et là, il y a des Torah chez Balpé, seulement au travers de la Torah chez Balpé, la Torah orale. Mishumachi, c'est pour ça. Ktiv al Torah shebealpe. C'est pour ça qu'à propos de la Torah shebealpe, c'est écrit Al titosh Torat imera. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué au début du cours, la semaine dernière. On avait dit que Eshet Chai la Teret Bala, la femme, c'est la couronne de son mari. On a dit, mais quel rapport, on a dit, c'est quoi la couronne? La couronne, c'est la halachot. On a dit, mais quel rapport entre les femmes et la halachot maintenant? Il dit, c'est très simple, il dit, regarde. Tu dis, Shlomo Ameler dans Michelet, il dit, Shma Beni Moussa Ravira, Ve'al Titosh Torah Timera. Écoute, mon fils, le, on va dire, l'éthique de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Dit le Zohar, il dit, c'est quoi la Torah de ma mère? C'est quoi la Torah de la mère? Il dit, l'éthique de ton père, c'est la Torah écrite. Et la Torah de ta mère, c'est la Torah orale. Pourquoi la Torah orale est comparée à la mère? Quel rapport? Pourquoi la Torah écrite est comparée au père et la Torah orale est comparée à la mère? Quel rapport?
C'est celle qui donne du sens.
Alors, il t'explique, il dit, c'est très simple.
Bah, la femme, c'est l'affectif.
Tu dis, quelle est la différence entre le père et la mère? Quand on va avoir un enfant. D'accord? Quand on va avoir un enfant. D'où va venir l'enfant? L'enfant va venir de la goutte de sperme qui est partie du père et qui est partie chez la mère. On sait aujourd'hui même scientifiquement, mais c'est écrit même dans la Gemara, que tout était dans cette goutte-là. Génétiquement, tout est dedans. On est d'accord ? Il y a une, c'est-à-dire, génétiquement, tout est dans cette goutte-là. Qu'est-ce que va faire la mère ? La mère, c'est elle qui va être capable de développer ça. De développer d'une manière que même le père ne pourra pas développer. On est d'accord ? Ça veut dire que le père est synonyme, on va dire, de concentré. C'est comme la Torah écrite. C'est-à-dire, tout est concentré. Et à la limite, dans la Torah écrite, tu ne sais pas ce que les choses veulent dire. Quand tu vois, tu crois qu'il y a une goutte. Exactement comme la Torah écrite. Tu lis un pasouk, ou que Shartalmot al-Edecha, ou tu les attaches sur ton bras. Tu ne sais pas qu'en vérité, derrière ce pasouk, se cachent des milliers de halachot. Exactement comme cette goutte. Tu ne sais pas que dans cette goutte-là, en vérité, se cache un bébé. Un bébé qui va grandir et qui a en lui tellement de membres et qui est tellement complexe. Tu ne vois pas. Qui c'est qui va le faire? C'est la mère. Voilà pourquoi dans le Zohar, on te dit que la Torah écrite est comparée au père, et la Torah orale est comparée à la mère.
Qui développe.
D'accord? C'est comparé à la mère parce qu'elle va développer. Il explique ici dans les mots. Ou Mishumachi, c'est pour ça. Ktiv al Torah Shibalpe, c'est pour ça qu'à propos de la Torah orale, c'est écrit Al Titosh Torat Imera. N'abandonne pas la Torah de ta mère. Comme c'est écrit dans le Zohar, que le Zohar te dit que la mère, ça correspond à la Torah. La mère, ça correspond à la Torah orale. Pourquoi? Shum shal derech mashal. Kmo, c'est le volet qui est mauvais. Kmo shekol evareh avlad klulim betipat ha'ev be'elem gadol. De la même manière que tous les membres du bébé se trouvaient déjà dans la goutte du père, mais qu'ils étaient cachés. Ça veut dire que tu prends cette goutte-là toute seule, si tu la développes, si la mère ne la développe pas, tu la prends, tu peux l'analyser autant que tu veux, tu ne trouveras rien dedans. Pourtant, nous, on sait que ça vient de là. D'accord ? Alors, on pourrait donner aussi l'exemple d'une graine. Quand on prend une graine, d'accord ?
Dans la terre.
Dans la terre. Mais on prend souvent l'exemple, dans le Zohar, on prend souvent l'exemple du bébé. Parce que dans un arbre, il n'y a pas autant de détails que dans un homme. Dans un homme, il y a énormément de détails. Comme on va voir, ça veut dire qu'il y a 248 membres, il y a 365 veines, c'est très complexe. Et de dire que tout ça se trouvait en concentré dans une goutte, que ta boule a décomposé, tu ne trouveras rien du tout. D'accord ? Ta boule a coupé, tu ne trouveras rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, a priori. De dire que dedans se trouvait quelque chose, c'est quelque chose ça veut dire que, imaginez dans un monde dans lequel il n'y avait pas de maman, et qu'on aurait dit aux hommes, on aurait dit, vous savez, dans cette goutte-là se trouve un bébé, on t'en prie pour un fou.
Merci. Vont se découper.
D'accord. Non, mais tu peux découper autant que tu veux.
Non, mais c'est pas, il peut se faire que s'il y a.
Tu peux, non, mais tu peux découper une goutte autant que tu veux, d'accord.
Oui.
Et que la fécondation qui peut la découper.
Et pourquoi tu dis pas que.
Qui peut, exactement.
Et pourquoi sur le même principe, on prend pas le côté receveur de la mère, mais en même temps, la mère, il y a une ovule, donc il y a forcément aussi de ce côté, la même façon qu'il y a.
Elle a un apport, tu veux dire.
Il y a un apport. À part le fait que ça va...
Non, il y a un apport plus la synthèse.
Non, ça...
Voilà. Ça, c'est la mère. Oui, mais pourquoi on ne prend pas le côté de l'ovule au même niveau que le
ça,
côté...
Ça, c'est vrai que le côté de l'ovule, on ne développe pas.
Parce que ça, au même niveau que
le côté... On développe ça. Simplement le... Non, je comprends ta question.
Finalement, il y a un... Il y a OK.
Tu peux tenir un truc.
C'est pour ça que je dis...
Peut-être on peut dire que l'ovule de la mère, ça correspond aux principes, aux 13 principes par lesquels tu peux développer la Torah écrite. C'est l'apport de la mère, et grâce à ça, on peut développer le bébé. Peut-être on peut dire ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, si, imaginez un monde dans lequel il n'y avait pas la mer, jamais on t'aurait cru, si tu avais dit à une personne, tu sais, dans cette goutte se trouve.
C'est le débat
d'accord? Non, jamais on t'aurait cru. Jamais on t'aurait cru. Et pourtant, on sait que c'est la vérité. C'est exactement la même chose quand on dit la Torah écrite, la Torah orale. C'est ça, c'est les débats qu'il y a de tous les temps. Quand on lit la Torah écrite, les gens vont te dire, mais pourquoi les rabbins ils sont partis chercher tellement de détails, et tellement de galères et tellement de complexité, alors que la Torah à la base était simple. C'est vrai, les gens parlent comme ça. Ils ont raison de poser la question. Ils disent, mais à la base, le message était simple, pourquoi on est parti chercher les complexités?
Il y en a même qui veulent la
réponse. Il te dit, c'est très simple. Il te dit parce que la Torah écrite, c'est comme le père, la Torah orale, c'est comme la mère. La mère qui te permet de découvrir des choses que le père lui-même ne savait pas qu'il avait. Le père, il se doutait pas que dans cette goutte, tu trouvais un bébé. Il n'y a que la mère qui est capable de dire, attends, je vais t'expliquer ce que toi tu as que tu ne sais même pas. Je vais t'expliquer ce que toi tu m'as donné. Et avec ça, elle va te faire un bébé. Qui dit ici? De la même manière que tous les membres du bébé, Kloulim, Betipat, Avelem, Gadol, on sait que tous les membres du bébé se trouvaient dans la goutte du père, Be'elem Gadol, mais qui était extrêmement caché. Ve'ahem, Motsiato, Lidegiloui, Beledata, Ve'lav Shalem. Et la mère, elle va faire sortir ces détails-là qui étaient cachés, elle va être capable de les extraire par la fécondation, et elle va faire un bébé avec Berama, Revarim, avec 248 membres, Vesha Sagidim, avec 365 veines. D'accord? Ça veut dire quoi? Comme on a expliqué ça plusieurs fois, le père, c'est Chorma, la mère, c'est Bina. C'est quoi Bina? Bina, c'est le développement. Il dit ici, Kacha Mamash, de la même manière. De la même manière, la Torah chez Béalpé, la Torah écrite est appelée, c'est écrit Al Titosh Torat Imecha.
C'est funky. Hein.
D'accord? Tu dois y aller?
Excuse-moi, je vais y rendre.
Pas de problème.
Je vais prendre Doraine. Bon.
Azak.
En tout cas, merci. Tu enregistres mon
nom? Oh ouais.
Azak.
Alors.
J'ai plus de raison.
Ouais. Tu nous envoies la musique, ouais. Enfin.
C'est en passant, il a mis un repère.
Hein. Ouais.
Tu mets un petit bar. C'est vrai.
Kach hamamash al derech mashal. Kach hamamash. Vous avez kach hamamash?
Ouais, excusez-moi.
Oui, kach hamamash.
Regardez. Kach hamamash. La ligne qui commence par shalem. Kach hamamash. Il en est de même. Kol remar mitzvot tassé, vechasa mitzvot le tassé. Il en est de même que les 248 mitzvot positives, vechasa mitzvot le tassé, et les 365 mitzvot négatives, vaïm et elem et la gilou ibetora chez Balpetubi, c'est exactement la même chose. De la même manière que dans cette goutte se trouvaient tous les membres et toutes les veines, mais que nous on n'est pas capable de le trouver, de la même manière, dans le texte de la Torah écrite, se trouve toutes les 365 mitzvot négatives et 248 mitzvot positives. Mais nous, on n'est pas capable de les trouver. Qu'est-ce qui va nous permettre de les trouver? C'est seulement la Torah orale. Veresh dikra, qu'est-ce que tu dis le début du pasouk? Shma beni, Moussar avira. Écoute, mon fils, Moussar avira, l'éthique de ton père. C'est quoi le père? Kae a Torah shebirtav. La Torah écrite est comparée à la Torah écrite est comparée au Père. Zen nafka mechorma ila anikret beshem av. Que la Torah écrite est comparée au Père, comme on explique ici. Ze ou shekat ou avec ça on va comprendre maintenant ce qui est écrit. Eshet chayil ateret baala. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit Eshet chayil, une femme virtueuse, d'accord? Ateret baala, elle est la couronne de son mari. Comment vous comprenez ça, la couronne de son mari? C'est-à-dire quoi que c'est la couronne de son mari?
C'est celle qui va... C'est le développement?
Non. Qui le fait régner.
Pourquoi on appelle la couronne?
Une femme vertueuse, c'est quoi?
Pourquoi on appelle la couronne?
La fierté.
La fierté? Non. Et pourquoi la couronne, dans ce cas-là?
Non, celle qui fait grandir son mari.
Pourquoi la couronne? Où on pose la couronne?
Sur un roi.
Attendez, sur quoi on pose la couronne?
Sur la tête.
Sur la tête. Non, l'homme représente quoi, normalement? On a dit l'homme représente... Chorma.
La Chorma.
D'accord? Donc si tu dis que la femme est la couronne du mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est la couronne de la Chorma.
Ou alors qu'elle va développer la Chorma.
Mais pourtant, normalement, la femme, c'est la Bina, c'est-à-dire qu'elle va développer la Chorma, donc elle devrait être en dessous de la tête.
On met la Bina sur la Chorma.
Non, la Bina, elle est en dessous de la Chorma.
Ouais, mais là,
c'est pas logique, il y a un problème.
Concrètement, c'était dans l'autre.
Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Vous voyez le problème? Il dit ici. C'est ou chez Kat, ou avec ça, on va comprendre ce qui est écrit. Eshet Chayil, la terre est Bala. Qu'une femme, la femme virtueuse, Ateret Bala, est une femme qui est, donc, Ateret Bala, elle est la couronne de son mari. D'abord, c'est quoi le terme Eshet Chayil? Chayil en hébreu, ça veut dire quoi?
La vertu.
Alors, c'est une mauvaise traduction.
Chayil, c'est pas vaillante.
Vaillante, exactement. C'est quoi vaillante?
C'est quoi
l'étymologie du mot vaillant? C'est quoi un vaillant?
C'est quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est combattant.
D'accord, donc Eshet Ra'il, c'est une femme qui se bat.
Ouais.
Et c'est cette femme qui va être la couronne de son mari.
Mais pas une femme qui bat.
Alors c'est quoi une femme qui se bat? Il faut comprendre ce que ça veut dire. L'utilité est très simple. On a dit que la femme, c'est comparé à qui ici dans la Torah? C'est comparé à la Torah orale.
On peut parler de volonté ou pas?
Non, pour l'instant, pas de volonté.
Mm-hmm.
Non, à Molida.
De volonté.
Non. C'est pas ça le pshat. Eshet Ra'il, c'est une femme. Ra'il, une femme vaillante. C'est quoi une femme vaillante? À Molida ou Mahamedet Chayalot Arbe. Il te dit pourquoi la Torah. On a dit que la femme est comparée à la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? Parce que la Torah orale va former plusieurs armées. Pourquoi plusieurs armées? Ça veut dire qu'à la base, la Torah écrite t'a donné un détail, par exemple. Elle t'a dit, Lota Semelacha, tu ne feras pas de travail. La Torah, c'est la Torah écrite. Tu ne feras pas de travail le Shabbat. La Torah orale va venir par derrière, et elle va te prendre ce détail, et avec un soldat, elle va te faire plusieurs armées. Vous voyez ce qu'on va te dire ici? Avec un soldat, elle va te faire Chayil. Elle va te faire plusieurs armées. Chayalot Arbe. Kemo Shekatoum, comme c'est écrit, va à la motte, En Mispar. C'est écrit que la Torah, c'est des jeunes filles sans fin. Normalement, à la mode, c'est une jeune fille. Alors, la Gemara dit, mais quoi, la Torah, quel rapport entre la Torah et les jeunes filles? La Gemara pose la question. D'accord? Et elle dit, Altikré à la mode et la Olamot. Parce que à la mode, c'est des jeunes filles. Mais quel rapport avec les jeunes filles ici? C'est quoi ces histoires? Dans Shira Shirim, c'est écrit. C'est écrit, va à la mode, En Mispar. On dit que là-bas, le Shlomo Melech, il parle de la relation qu'il a avec. Entre une femme et son mari. Et là-bas, il dit qu'à un moment, le mari, il dit des jeunes filles sans fin. Alors, la Gemara dit, mais s'il est fidèle, qu'est-ce qu'il parle de jeunes filles sans fin? C'est quoi cette histoire?
Il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre. Et puis,
alors, qu'est-ce qu'il explique là-bas, la Gemara? La Gemara dit non. La Gemara, elle dit, c'est quoi, va à la motte, n'est-ce pas? Elle dit, al tikra à la motte, ne lis pas à la motte, ça veut dire les jeunes filles, et là, olamot, les mondes. Que olamot, elle n'est-ce pas, que la Torah orale va créer des mondes sans fin. Ça veut dire quoi? Encore une fois, on va partir d'un détail. L'Ota Semelacha, par exemple, tu ne feras pas de travail. Et avec ce détail, la Torah orale va te faire des armées. La Torah orale va te faire des mondes. Des mondes sans fin. Ça, c'est le rôle de la Torah orale. Et l'Ou Alachot, c'est l'Alachot, de Leitlen Rouchbena, que Moshe Katouf Betikunim. Alors, vous savez, le Tikkuné Zohar, il pose la question. Il dit, est-ce qu'on a un nom de Alachot? On a un nom de mitzvot. Le mitzvot de la Torah, c'est qu'il y en a 613. Il pose la question là-bas. Il dit, est-ce qu'il y a un nombre de halakhot? Est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui pourra lui donner un nombre de halakhot? Et il donne une réponse là-bas, Tikkun Ezohar, et te dit, les halakhot, par définition, n'ont pas de nombre. L'Etlan Khushbena. C'est-à-dire qu'il y en aura, c'est-à-dire chaque génération, il y aura toujours des nouvelles halakhot et des nouvelles halakhot et des nouvelles halakhot. Ça s'arrêtera jamais. Jamais. Eh ben oui, c'est la pyramide.
C'est pas comme le code civil où on a un nombre de.
Oui, mais
il y a un nombre.
On rajoute et aussi.
On rajoute.
Alors, le Tikkun Ezohar est très clair, il te dit Let Leon Rouchbena. Il n'a pas de compte. Pourquoi il n'a pas de compte? Parce que dans Shira Shirim, c'est écrit Va à la motte, en mispar. Qu'est-ce qu'il te dit dans Shira Shirim? Il te dit Va à la motte, en mispar, altikra à la motte et la olamot, des mondes sans fin. Ça veut dire que la Torah orale, elle va te prendre un détail, et ce détail-là, on va te développer, on va te faire des mondes sans fin, sans fin. Le Khulan, Hen, Prinat, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
Tu sais la référence que font les musulmans?
Sur?
Sur les Alamot.
Non.
Les
qui se basent sur Shira Shirim?
Alors, non, mais
c'est les vierges.
Ouais, mais il y en a combien?
49 vierges.
Non,
70.
Merci, regarde. C'est dans le passage 70.
Ah,
c'est le verset 70 qui parle de Alamot. Donc c'est une interprétation qui tient la route.
Vous connaissez pas l'histoire, une fois en Israël, il y a...
Non. Elle tient la route dans l'explication. Dans oui. Le trouver. Mais sinon, il se débrouille. Hein.
Oh, c'est Jésus, ça.
Je continue. Donc, il dit ici maintenant... Vechulan, en prinat, gilou, iratson, aelion, varuchu, anelam, betora, shebirta. Que tout ça s'est appelé Eshetraïl. Tout ça s'est appelé Eshetraïl, la Torah orale. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour nous dévoiler quelle est la volonté d'Akadosh Baruchou. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, si les mitzvot n'étaient pas une volonté d'Akadosh Baruchou, c'est pas bien grave si on manque des détails.
Alors,
je voudrais juste expliquer ça, regardez. Imaginez par exemple une femme qui a demandé à son mari et lui a dit « va faire les courses et achète-moi ce produit ». Il est parti, il a fait les courses, il a acheté un produit, il n'y avait pas celui-là, il a acheté un autre. Il arrive à la maison, il y a deux options dedans. Si ce que la femme voulait, ce n'était pas une volonté, c'était juste parce qu'elle a besoin, c'est un ingrédient qu'elle a besoin, mais c'était pas, elle ne voulait pas spécialement cet ingrédient, elle a donné juste un exemple. Bon, dans ce cas-là, elle va dire à son mari, merci beaucoup d'avoir eu la présence d'esprit, que même si tu n'as pas trouvé ce que je t'ai demandé, tu as eu la présence d'esprit de choisir autre chose qui ressemble. Ça, si ce n'était pas une volonté. Parce que juste, elle avait besoin, c'était un besoin. Ça représentait un besoin. Mais si c'était une volonté, bon, elle voulait un produit. Là, je veux un chocolat de la marque Damiel.
Là, c'est la guerre.
Volonté. Une volonté de femme enceinte, par exemple. Tu lui amènes pas le chocolat qu'elle t'a demandé, tu lui amènes un chocolat d'une meilleure marque, qui coûte plus cher, qui coûte trois fois le prix. D'accord, Ribono Shel Olam. C'est pas ce que je voulais.
Je peux te dire quelque chose.
Alors.
La première, elle échète rail, il faut la deuxième.
Ben non, justement, c'est la deuxième, échète rail.
C'est terrible.
Parce que c'est quoi échète rail? Échète rail, ce qu'on t'explique ici, c'est quoi une échète rail? Échète rail, c'est... Nous, en vérité, c'est quoi le rôle de la Torah orale? Le rôle de la Torah orale, c'est comme Echet Rahil, ça veut dire qu'on est là pour essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu.
Quoi, Echet Rahil, c'est pas celle qui fait la volonté de son mari, c'est pas l'inverse.
Non, c'est le mari qui fait la volonté.
C'est comment on explique au principe.
Moi, en tous les cas, c'est ce que je lui explique.
La femme a dit comme ça. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit comme ça. Ezeu Ishak Shera, c'est quoi une femme Shera qui fait Aosar et Sonbala, qui fait la volonté de son mari? Attends. Qu'est-ce qu'on explique en chassidut sur ça? On dit Ezoï Shakshera, c'est quoi une femme qui est Kshera? Ah, Osar et Sanbala, celle qui fait la volonté de son mari, ça veut dire que c'est elle qui fabrique la volonté de son mari. Ça veut dire que c'est elle,
en fait,
elle qui va faire.
Elle va déjà te changer pour que tu fasses sa volonté.
Ça veut dire que c'est elle qui va créer le mari, qui va lui expliquer de quoi il a envie.
C'est la manipulation.
C'est le chef.
C'est ça.
On s'est fait piéger.
Je pense que tout mari pourra confirmer ce que je suis en train de dire. Je conclue ce que je dis.
On a quelques passions encore, heureusement.
Mais là. Ah non, les bastions, c'est les femmes. Khaïl, c'est la guerre.
Une question rapide. On est obligé de faire un chétrel tous les Shabbats?
Non.
Ah, est-ce qu'on est obligé? Non, parce que par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais non.
Il a peur.
Non, c'est pas une question d'avoir. Non, par rapport au début du jour, là, par rapport au mitzvot, quand tu dis faut toutes les faire ou pas, sinon on redescend pour accomplir celle qui manque.
Oui.
Alors, non, mais c'est une mitzvah.
C'est pas une mitzvah.
Mirabanane.
Il n'y a pas de mitzvah. C'est même pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah.
Il y en a qui disent que c'est plus mirabanane. C'est une mitzvah.
C'est même pas une mitzvah du tout.
Pour le Shalom Habayit, c'est ce qui paraît.
C'est un minag.
Et il y en a même qui disent que même les enfants peuvent la faire avec le père.
Il n'y a pas de. C'est des minagim, c'est pas de.
Il y en a qui ne veulent pas la faire à sa femme parce qu'ils disent que si je la fais, j'ai l'impression de me mentir parce que ma femme est trop insupportable.
Ah.
Pense à ta mère.
Non, il dit échète rail.
Alors, fais là, mais pense à ta mère.
Alors, justement. Non, au contraire, il dit échète rail, mime ça.
Bah, tu veux que je dise, en réalité,
il n'y a aucune obligation de la faire.
Il faut la faire de temps en temps quand vraiment tu sens que c'est un peu plus exceptionnel.
Mais sérieusement, on est obligé de le faire ce paragraphe ou pas?
Je dis, qu'est-ce qui se passe cette semaine?
Alors, pourquoi, bien sûr?
Parce que c'est dans le texte.
Mais en quoi on est obligé par rapport aux autres, par rapport au texte, c'est obligé de le faire tous les.
Non, c'est pas une mitzvah, c'est dans la liturgie, c'est le rituel de la Torah, de la Tfila.
Mais on peut ne pas la faire si on veut pas.
Si on veut ne pas la faire, enfin, comme
ça dépend. Si c'était pour le Shalom Bayit, il vaut mieux la faire.
Bon.
Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est en fait c'est le.
Non, mais là on parle pas du kiddush du tout, là. On explique comment la Gemara commente, non, comment le Zohar commente.
On fait référence à le couronne, etc.
Que
Shlomo Amelech.
Et il dit comme ça. Donc on a dit Shlomo Amelech nous dit que Eshet Rahil Ateret Bala. Il dit c'est quoi la femme? La femme c'est la Torah Shebe Alpe, c'est la Torah orale. Pourquoi la Torah orale? Et tu dis c'est très simple. Et tu dis parce que c'est quoi le rôle de la femme? La femme elle essaye de comprendre quelle est la volonté de son mari. Elle essaye de comprendre, et plus elle va avancer, et plus elle va essayer de comprendre quelle est la volonté de son mari. Alors elle va avancer, elle va chercher, et c'est exactement ça le rôle de la Torah orale. Le rôle de la Torah orale, c'est comprendre qu'est-ce que voulait dire la Torah écrite. Et après, quand tu auras compris, quand tu crois que tu auras compris, va venir après encore une couche pour te dire, peut-être il y a encore un détail qu'on n'a pas compris. Peut-être il y a un détail qu'on n'a pas compris dans la volonté du roi. Et ça, on te dit, c'est en mispar. Ça, c'est des halakhot sans fin. C'est-à-dire que tu auras toujours l'halakha de base, mais après, tu auras toujours les idourim, le idour du idour. C'est quoi le idour? Le rôle du idour, c'est de dire, puisque je fais la volonté de quelqu'un, je vais essayer de faire sa volonté au maximum. Donc pour moi, je pense que c'est ça ce qu'il veut. Et ça, c'est sans fin, ça, tu t'arrêteras jamais, ça. D'accord? pour aller, pour, quand tu veux essayer de, imaginez-vous que votre femme vous a demandé quelque chose et tu dois essayer de comprendre sa volonté. Plus tu vas réfléchir, plus tu vas trouver des détails. Elle mise
pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle ne dénonce pas de manière claire les choses.
Eh ben oui, c'est normal.
Ça complique encore plus les choses.
Mais vous savez que normalement, dans la Torah, c'est le contraire. Normalement, c'est la femme qui essaye de comprendre ce que le mari voulait dire. C'est le mari qui est succinct et la femme qui essaye de comprendre ce que le mari veut dire. Parce que l'homme, c'est Torah Shibirtav et la femme, c'est Torah Shibalpé.
Ben oui, mais là, en l'occurrence, souvent, les femmes, il faut essayer de les décoder. Hein.
On dit qu'une femme, elle essaye de comprendre ce que son mari veut. Elle essaye d'ouvrir son mari.
Non mais attends, mais on est tellement prévisible pour elle.
C'est marocaine.
Hmm non mais c'est vrai.
Marocaine.
Non mais marocaine ou quoi c'est... Non c'est vrai, elle le dit d'ailleurs. Entre elles, quand ils entendent parler, de toute manière les hommes sont tous pareils, ils seront comme ça. Il y a une liste de critères, donc la prévisibilité, etc., les caprices, la volatilité, etc. Ils te disent tout ça. Elles nous comparent souvent à des gamins. Et elles sont là, soi-disant, comme tu dis, pour essayer de nous recadrer,
de nous développer.
De nous développer,
c'est ça ce qui est difficile.
Et c'est ça en fait.
C'est exactement, je pense, l'exemple
le samedi. La Torah écrit la Torah orale. Je suis le seul mec là-bas, tu les vois en train de papoter, je te jure.
Elles refont le monde.
Mais c'est vrai, je te promets, c'est tout à fait ça.
La Torah écrite, la Torah orale, c'est exactement, c'est un excellent exemple. Parce que quand tu lis la Torah écrite, t'as l'impression. Quand tu lis la Torah écrite, t'as l'impression que le message est très simple. Que c'est pas shoot. Que tout est très simple, bon, on a compris. Quand tu lis la Torah orale, tu comprends que derrière chaque détail de la Torah écrite se cachaient des messages extraordinaires. Et plus tu vas passer des couches, alors au début tu croyais que c'était que la Mishnah, après autour de la Mishnah, tu auras la Gemara, après autour de la Gemara, tu auras Rashi, après autour de Rashi, tu auras Tosfot, après autour de Tosfot, tu auras les commentaires comme le Marsha, et après tu rajouteras des couches et des couches et des couches et des couches et des couches, et aujourd'hui tu as des couches pour comprendre la couche, pour comprendre la couche, et ça s'arrêtera jamais. N mise par. C'est sans fin. Bah, c'est la Torah orale.
Quoi faire dans ce cas-là.
Mais non. C'est quoi la beauté ?
Il faut bien un moment.
La beauté, c'est que dans tout ça, on est en train d'essayer de comprendre quelle était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'à chaque fois, on rajoute une couche. Ça, là, c'est extraordinaire. Vechulan en prinat gilui ratsanelon baruch hu anelam betorah shebirtav. Tout ça, c'est pourquoi ? Pour essayer de comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je suis parti d'une halakha. Cette halakha a été capable, la femme qui est la Torah orale, a été capable d'en faire plusieurs armées, plusieurs mondes. Elle était capable de développer ça sans fin. Avec ça, on comprend maintenant pourquoi celui qui étudie les halakhot, particulièrement les halakhot, on a dit tout à l'heure, la semaine dernière, on a dit que kol hashana halakhot b'cholyom muftachlu shi'ubon el mabba, il a une assurance d'avoir le lama. Pourquoi les halakhot particulièrement ? Pourquoi particulièrement celui qui étudie les halakhot ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les halakhot ? Pourquoi les halakhot sont comparés à la couronne de la Torah ? Maintenant, on comprend pourquoi. Il dit, veratzon alion baruchu ule mala mala mimadregat chokhma ila'a. Il te dit comme ça, il te dit quelque chose d'extraordinaire. Quand tu étudies la Torah, mais qu'il n'y a pas d'implication à l'Afrique, il y a plein de choses dans la Torah qu'on étudie, même dans la Gemara, qu'il n'y a pas d'implication à l'Afrique. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu étudies ? Tu étudies la Chochma de Dieu. Tu essaies de comprendre la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies maintenant une halakha, qu'est-ce que tu étudies ? Tu n'étudies pas la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Tu étudies la volonté de Dieu. Tu essaies de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? Que la volonté, c'est ce qu'il y a de plus fort chez un homme. On l'a répété encore aujourd'hui. Ça veut dire que quand tu étudies Stam, une Gemara, mais qu'il n'y a pas d'implication à l'Achrique, des fois tu peux étudier des pages et des pages, il n'y a pas d'implication à l'Achrique, la conclusion sera à la fin. Qu'est-ce que tu es en train d'étudier ? Tu étudies la Chochma de Dieu. La Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Chochma ila. Mais quand tu arrives à la Halakha, au mot de la fin, dans ce cas-là, tu n'es plus dans la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de développer quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est beaucoup plus fort que le Ratzon, comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai dit, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, des courses, est-ce que ça correspond à un besoin, donc un développement logique, ou est-ce que c'est une volonté ? Une volonté, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Une volonté, par définition, ne s'explique pas, c'est plus fort que la logique. Je veux ça, point, et c'est tout. Même si tu me proposes un produit moins cher et qui est mieux, je veux ça et c'est tout. C'est une volonté, c'est un ratson. Quand j'étudie, quand j'arrive à la halakha, on te dit, point, la ligne, c'est comme ça. Ça veut dire comme ça. Regardez ce que je vais expliquer. Je vais donner un exemple. Quand j'étudie la Gemara, d'accord ? Qu'est-ce qui me plaît dans la Gemara ? C'est le développement. Il y a un développement qui est logique, qui est de la Chochma. Quand, au bout du compte, on va développer, on te dit, bac, la halakha, c'est comme ça, demain, tu dois faire comme ça. C'est possible que moi, idéologiquement, je n'accepte pas la halakha. Il y a tellement d'avis, peut-être que moi, idéologiquement, je préfère le premier avis, et toi, tu m'as dit que la halakha est comme le deuxième avis. Qu'est-ce que je viens de te dire, la halakha ? La halakha va te dire, tu peux vouloir ce que tu veux, la volonté de Dieu, c'est ça. Point à la ligne. On discute pas. C'est ça, la halakha. D'accord ? C'est ? Assez, exactement. Ça veut dire que la halakha, C'est pour ça que, vous savez, que ceux qui étudient la Gemara au début, ceux qui n'ont jamais étudié la Gemara, ils ont beaucoup de mal avec ce détail-là, avec ça. Que d'abord, on t'impose des principes, et après, à un certain moment, on te dit, pac, on te dit, alors, Ravintel est venu, il a dit, la lacha est comme ça. Pac. Tu dis, mais attends, deux secondes, et il y avait un autre avis, il était plus logique, cet avis. Tu dis, ah, la lacha est comme ça, c'est fini. On discute plus. Ça y est, il a tranché comme ça, on peut plus trancher, on peut plus trancher autrement. Rav, on a dit la lacha est comme ça, la lacha est comme ça. Pourquoi ? C'est très compliqué.
On devrait d'abord faire que des cours de halakha.
Exactement. Non. Ouais, pour arriver à la halakha, non, attention.
Tu dois passer par
on n'a pas dit qu'il faut étudier que la halakha. Ce qui va t'expliquer ici, c'est pourquoi il y a un apport. Exactement, c'est une priorité. C'est ça le but du cours d'aujourd'hui. Ce qui va t'expliquer ici, c'est pourquoi, particulièrement sur les halakhot, kol hashana halakhot bechol yom, muftachlo shouban al mabar. Pourquoi les halakhot particulièrement ? Voilà la réponse. Les halakhot particulièrement, parce que dans les halakhot, on développe la volonté de Dieu. Alors que dans la Gemara et dans le reste, dans la partie qui n'est pas halakha, on développe la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'une personne qui va étudier du Shulchan Aruch, même s'il n'a pas compris pourquoi l'halakha est comme ça, le fait qu'il sait exactement comment faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il fait la volonté d'Akadosh Baruch
Hu. Alors, dans ce cas-là...
Donc, je reprends l'exemple de, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure, d'accord? On a dit, imaginez, le mari qui a demandé à la femme, voilà, je vais inverser l'exemple, t'es avec nous, Yves?
Oui.
Le mari qui a demandé à la femme, il lui a dit, là, il est avec nous. Le mari qui a demandé à la femme, il a dit, est-ce que tu peux aller à tel endroit et me faire telle course? Tu vas voir deux catégories de femmes. Première catégorie de femmes, toute la route, elle va essayer de réfléchir. Pourquoi il m'a demandé ce détail? Mais il aurait dû me demander ce détail. Mais peut-être ce détail est mieux. Et du coup, il va arriver au magasin et c'est plus ce qu'elle veut. D'accord? Ça, c'est la Gemara. D'un autre côté, t'as une autre femme qui ne va pas réfléchir. Elle va prendre ce que son mari l'a dit, elle va écrire, elle va aller, sans rien comprendre, elle va aller, elle va acheter, elle va ramener. D'accord? Attends. Oui, j'ai dit que j'ai inversé. D'accord, j'ai dit que j'ai inversé.
Ça, c'est moi.
Laquelle a accompli... Alors, voilà, là, on a un vrai exemple. Regardez. La première femme a fait la chorma de son mari. C'est-à-dire qu'elle a essayé de comprendre la chorma de son mari. Et donc, du coup, peut-être qu'elle ne va pas être d'accord. On se dit que ça discute. La deuxième femme n'a pas fait la chorma de son mari. Elle a fait le ratson de son mari, la volonté de son mari. Quand on dit volonté, c'est-à-dire que je comprenne ou je ne comprenne pas, je fais et c'est comme ça. On explique que faire la volonté, c'est plus haut que la chorma. Parce que la volonté, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut que la chorma. Quand la femme va essayer de rentrer dans la chorma de son mari, elle s'arrête à la tête. Quand elle va aller dans la volonté, c'est comme la couronne. Parce que la volonté, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Mmh. Voilà pourquoi on te dit que étudier la halakha, c'est la couronne. La halakha, c'est ce qu'il y a au-dessus de la tête. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier la halakha. Et on te dit ici que c'est particulièrement sur celui qui étudie la halakha qu'on a la promesse qu'il sera, celui qui étudie l'alakha tous les jours, il sera ben alamaba. C'est particulièrement sur l'alakha qu'on te dit que celui qui n'a pas le temps d'étudier, qu'il étudie un pérec de l'alakha le matin et un pérec de l'alakha le soir. Pourquoi l'alakha? Parce qu'on te dit, si tu n'as pas le temps de faire tout le développement, on va directement à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut. Wow. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est l'alakha qui va te le dire. Même si tu ne comprends pas comment tu vas le faire, même si tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire comme
c'est
ça.
C'est le côté pratique.
C'est le côté pratique.
Ouais. Alors dans ce cas-là, autant prendre un Shulchan Aruch et le lire.
Exactement.
Bah oui.
La halakha.
Je vais voir aussi la newsletter à la
halakha. Mais savez, ça sert à rien.
Mais c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours que celui qui n'a pas le temps d'étudier, la halakha est prioritaire.
Non, c'est pas une question de temps. Si on veut être efficace et par rapport à tout ce qu'on a dit, être concret, etc., et s'assurer le Gan Eden, etc., etc., bon. Eh ben, tu viens de dire qu'il faut mettre la priorité sur l'étude de la halakha. Eh ben, tu prends le Shulchan Aruch, tu lis les 24 volumes, je crois que c'est 24, non, c'est pas ça?
4.
Hein?
4.
4. Je sais pas, il est décomposé pour le moment.
Bon, ouais, ça dépend des éditions, après.
Les lire dans l'intégralité, d'une année sur l'autre et jusqu'à la fin, et puis voilà.
Oui.
Et faire que ça, point.
Alors, seulement normalement,
après, il faut appliquer, bien évidemment.
Ce qu'on voudrait, c'est faire tout le développement.
C'est clair.
Normalement, l'Admor HaZaken a écrit des Ilchot Talmud Torah. Les lois du Talmud. Il dit là-bas comme ça. Normalement, on te dit, la Gemara, que tu dois découper ton étude en trois. Il y en a qui disent que si tu découpes ton étude en trois dans ta vie, il y en a qui disent que c'est ta semaine, il y en a qui disent que c'est ta journée. Après, c'est un détail. Mais normalement, de découper en trois. Un tiers de Chumash, un tiers de Mishnah, donc ça veut dire de Halakha, et un tiers de Gemara. Mais ça, c'est à condition. Bien sûr. Mais ça, c'est à condition que j'ai le temps de faire les trois. Si j'ai pas le temps de faire les trois, j'ai le temps de faire un seul.
C'est le deuxième.
Alors, lequel est prioritaire? C'est le deuxième. D'accord? Si j'ai le temps de faire que deux, lesquels sont prioritaires? Les deux derniers. Mishnah et Gemara. Bah oui, parce que...
Ils sont complémentaires.
C'est eux qui sont complémentaires. Si j'ai le temps de faire les trois, je fais les trois. On est d'accord ? Mais c'est ça le pshat. Ça veut dire que quand j'ai pas, quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier, on te dit clairement, Perek Echad Shacharit, Perek Echad Arvit, t'expliques la Admor HaZaken, c'est la halakha qui est prioritaire. Parce que la halakha t'explique comment faire accomplir la volonté de Dieu. Après, la Gemara va t'expliquer pourquoi quand tu fais ça, tu fais la volonté de Dieu. Ça, c'est déjà des détails. Et qu'il y en a qui étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord. Ok, c'est très beau. Mais le plus important, c'est de savoir comment faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, encore une fois, ça correspond pas à un besoin. Que si tu fais pas exactement ce qu'on te demande, c'est pas grave. C'est une volonté. Et la volonté, si tu manques ne serait-ce qu'un seul détail, la volonté n'est pas là, c'est pas cachère.
Alors, dans les six obligations du père par rapport à l'éducation de son fils, on dit qu'il doit lui apprendre à étudier le Chumash.
Oui.
Donc, alors, là, par rapport à ce que je viens de dire, il doit carrément oublier ça et attaquer directement les halakhot.
On dit que la tête d'un enfant n'est pas conçue pour aller directement à la halakha. Il faut d'abord commencer par le Chumash, c'est progressif.
Ouais, mais on peut.
Non, mais c'est vrai. Un enfant n'est pas conçu pour la halakha. Ben, il y a trop de détails, trop complexes.
On dit que c'est Rambam qui dit qu'à dès l'âge de 5 ans, il peut comprendre.
Non, pas la halakha. Le Chumash, oui, le Chumash, oui.
Bah, c'est déjà pas mal, hein.
Le Chumash, oui.
C'est comme les mathématiques.
Mais regardez les enfants à l'école, ils vous répètent la paracha. Parce que c'est une histoire. Et même les mitzvot, on leur simplifie. La halakha, ils ne sont pas faits pour.
C'est une question de niveau, c'est tout.
D'accord ? Juste, je finis dans les mots, après on s'arrête là. Donc il dit comme ça, il dit Uchmo keter va tarash el mochin shbarosh, velachen nikriu alachot, taga vekitrash el Torah. Voilà pourquoi les alachot sont appelés la couronne de la Torah, puisque finalement c'est ça l'essentiel. Veachone alachot bechol yom, muftachlo sheu banolam haba, celui qui étudie les alachot tous les jours, particulièrement les alachot, il a une assurance qui est banolam haba. Pourquoi ? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Que quand j'étudie la Gemara, quand j'étudie le reste de la Torah, qu'est-ce qui se passe ? C'est mon cerveau qui va se lier à la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand j'étudie la Halakha, c'est ma volonté qui va se lier à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le Ratson à Elion, c'est ce qu'il y a de plus élevé chez Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'étudier la Halakha. Voilà pourquoi l'Admor HaZaken insistait énormément sur l'étude de la Halakha. Voilà pourquoi ici dernièrement je fais beaucoup de halakha, parce que je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Si on a du temps après, on rajoute, on explique. Mais la halakha, c'est le plus important. Parce que c'est ça ce qui nous permet de savoir comment faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara va te permettre de comprendre. Mais ça, c'est si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, c'est clair que c'est évident que c'est la halakha qui est prioritaire. Donc avec ça, on a expliqué pourquoi c'était très important d'étudier la halakha. Donc je résume en gros ce qu'on a expliqué depuis le début du cours. On a amené la semaine dernière longuement ce que l'Arizal a expliqué, que chaque personne dans sa vie, au travers des Gilgoulim différents, devait passer au moins une fois par les 613 mitzvot, c'est ce qu'on a expliqué. On a expliqué dans le cours d'aujourd'hui que dans les 613 mitzvot, ça c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui, on a dit que la Torah orale est très importante. Pourquoi ? Puisque c'est elle qui me permet de comprendre, comme la maman qui développe le papa, c'est elle qui me permet de comprendre qu'est-ce que veut dire les mitzvot ? Donc on a donné plein d'exemples avec les tfilines, avec Shabbat, etc. Donc la Torah orale est très importante. Et dans la Torah orale, quelle partie est la plus importante ? C'est l'aspect pratique, qui te permet de comprendre la halakha. Voilà pourquoi c'est très important la halakha. Et vous savez, le rabbi Rachab, donc deux rabbis de Lubavitch en arrière, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de rabbinis qui encouragent comme ça, ils encourageaient beaucoup dans les yeshivot, ce qu'on appelle les asuk, le rabbi Ovadia Yosef aussi encourage beaucoup sur ça dernièrement, ce qu'il appelle les asuke shmatata elibad ilcheta, de conclure l'étude vers la halakha. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, quand on étudie la Gemara, on étudie les avis, etc. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le Shulchan Aruch. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans le Shulchan Aruch. On n'a aucune idée de comment c'était conclu. Et il encourageait beaucoup les élèves, à, une fois qu'ils ont étudié la Gemara, de passer après au poskim, au décisionnaire, et d'aller jusqu'à le Shulchan Aruch pour développer la halakha. Et ça, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est ça le but. Le but de tout ça, c'est quoi ? C'est de savoir quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas juste se faire un kiff. Même si juste on se fait un kiff, c'est déjà très important. C'est lié à la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà très important. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller vers la halakha. Les asuke shmatata, conclure l'étude et l'ibad et l'ilcheta au travers de la halakha. C'est ce que j'essaye de faire dans le cours du mercredi à chaque fois. De montrer comment on démarre d'une Gemara et comment mercredi matin.
Ah, le matin ?
Oui.
Ah, moi, je suis au cours, moi.
On démarque, on explique comment on arrive progressivement vers la halakha. Parce que c'est ça le but.
Tu sais quoi ? Il faudra que je t'amène avec moi à mon lycée pour que tu expliques à mon proviseur la halakha de Shabbat, comme ça il va me libérer. Ils m'ont encore bloqué.
Mais ça veut dire que la halakha, par définition, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je le fais parce que c'est comme ça.
Je vais lui dire. Tu
de me libérer le Shabbat si vous voulez d'Hachem.
D'accord, ça c'est la couronne. Voilà. Est-ce qu'il y a une logique pour m'interdire de prendre l'ascenseur pour monter au 30e étage le Shabbat?
Bien sûr.
Non, il n'y a pas de logique. D'accord, on a abandonné toutes les raisons qu'on veut, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est une volonté. Mais et quand c'est une volonté, on ne discute pas.
Mais comment ils peuvent faire les ascenseurs shabbatiques là? C'est un truc qui m'a...
Bon, c'est des techniques qu'ils ont trouvées, mais ça veut dire, maintenant, voilà, imaginez-vous, je dois monter au 30e étage, j'habite au 30e étage.
J'ai une énergie au départ.
J'habite à une heure de la synagogue. Est-ce qu'il y a une logique qui explique pourquoi je ne peux pas prendre la voiture? Il n'y a aucune logique qui expliquera. C'est une volonté, c'est comme ça. On a beau expliquer ce qu'on veut, l'énergie, tout ce que tu veux, concrètement, ça va me faciliter la vie. De prendre même un bus, rien, t'as pas le droit.
Même la sorte de Shabbat, c'est des galères.
Même la sorte, exactement. Pourquoi? Parce que, parce qu'à un certain moment, c'est un ratson, c'est une volonté. Et quand c'est une volonté, on discute pas. On essaye de comprendre, mais à un moment, ça veut dire que même quand tu étudies la Torah, à un certain moment, tu vas te bloquer à un niveau dans lequel on te dira, c'est comme ça et c'est tout. C'est la halakha, c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est très très important d'étudier la halakha. Halakha le Moshe Mishinai, voilà. Ça va être là pour aujourd'hui.